conférence privée du 29 décembre 1986, Père Marie-Dominique Philippe Saint-Jodard.
Je m'excuse. Ce soir, contrairement aux habitudes, c'est une conférence spirituelle. On va continuer ce qu'on a commencé de faire. Ça pour ceux qui n'étaient pas là, présents aux autres. C'est-à-dire cette recherche philosophique et théologique sur le corps. D'habitude, le soir, on aime bien te faire une conférence sur Saint Jean. Mais je crois qu'il vaut mieux, parce qu'autrement ça ferait telle coupure qu'on ne verra plus du tout. Et c'est bon de creuser. C'est encore Johannique. Le Verbe est devenu chair. Autrement dit, Saint Jean est celui qui insiste le plus sur Sarx, la chair, et donc sur le corps. Je crois que Saint Jean est celui qui insiste le plus sur le cœur de Jésus. Et ça, c'est très johannique, le mystère du cœur de Jésus. Et ceci fait comprendre, puisque le corps et le cœur et le sang, ça se tient. Alors, je continue cette petite recherche d'ordre philosophique et d'ordre théologique. Je vous disais que dans une vision de sagesse, il faut bien comprendre que c'est dans une vision de sagesse, c'est-à-dire dans la lumière de la sagesse du Dieu créateur et la sagesse du Dieu Père. Parce que Dieu nous a créés comme créateur et comme Père. Au plan purement philosophique, on peut le dire. Les néoplatoniciens n'ont pas hésité de le dire. Avant la révélation, qu'il fallait toujours bien distinguer le point de vue du Créateur et le point de vue du Père. Le point de vue du Créateur, c'est Dieu qui crée l'univers visible et invisible. C'est le point de vue de l'être. Le point de vue du Père, c'est la communication de la vie et la communication de l'esprit. Et je crois que c'est une très bonne distinction qu'on ne fait peut-être pas assez. Vous voyez, et toute la grande vision qui a été prise par Voltaire, hein, sur le grand architecte, sur l'horloger, c'est une vision mécanique qui n'est plus du tout la vision traditionnelle. C'est réduire Dieu à un patron ou à un archétype. Ce n'est plus du tout le point de vue du Créateur et le point de vue du Père. Donc, on se pose la question, pourquoi le corps uni à l'esprit? On peut évidemment donner des arguments d'ordre esthétique. Pour réaliser un chef-d'œuvre, on unit les extrêmes. Et ça, c'est d'ordre esthétique. Les deux extrêmes, c'est la matière et l'esprit. Unir les deux dans une unité substantielle, c'est un chef-d'œuvre. Point de vue purement artistique. C'est fou. C'est presque de la folie. Unir les deux. Ça joue ça, parce qu'aujourd'hui on est très pris par le point de vue de la beauté. Par le point de vue de la lumière et la beauté. Et on prendrait cet argument-là qui joue, vous voyez, dans la perspective un peu de Camus. Et ce ne serait pas négligeable du tout. Ce n'est pas central, ce n'est pas premier. Mais si l'analogie de l'art est première dans l'œuvre de la création, le point de vue du chef-d'œuvre qui unit les deux extrêmes, Dieu qui réalise un monde matériel, Dieu qui crée une matière informe, chaotique, ce que les philosophes appelleront la matière première, que Dieu n'a jamais réalisé à l'état pur, c'est bien évident. Mais c'est là, on voit très bien les théories scientifiques et la différence du point de vue artistique. puisque Dieu crée à partir de rien, vous comprenez bien, il ne va pas commencer à faire quelque chose de propénikil, quelque chose qui est tout proche du rien. Parce que propénikil, c'est la matière première. C'est comme ça que les philosophes vont appeler ce qui est proche du rien. Si Dieu est créateur comme un artiste, vous comprenez bien qu'il ne va pas commencer par faire quelque chose de complètement informe. Un artiste fait ça quand il fait quelque chose à partir de quelque chose. Mais quand on crée à partir de rien, on ne va pas faire une espèce de matière première, informe, vague, propénikil, proche de rien. Je crois qu'au contraire, Dieu crée tout de suite un univers qui a une forme, une certaine beauté. C'est un architecte, Dieu. On le voit bien quand il fait le temple, quand il fait l'arche. Je crois que les savants ne peuvent pas dire grand-chose sur le point de départ. Ils ne peuvent pas dire grand-chose. Vous savez bien qu'aujourd'hui, à Paris, tout un groupe de polytechniciens, quelquefois, ont des idées assez particulières, n'est-ce pas ? On sait bien, un groupe de polytechniciens qui sont en train... Je vais être invité chez eux un de ces jours, parce que ça m'intéresse et ça m'amuse. Ils sont en train de reprendre toutes les théories scientifiques sur le début du monde, sur l'âge du monde, et qui montrent que ça ne tient absolument rien du tout. Alors, ils sont un peu trop fidéistes. C'est pour ça que j'aimerais les voir, pour leur dire de ne tomber pas dans une perspective apologétique. Alors, ils veulent à tout prix retrouver l'âge de la Bible. C'est là, on voit un petit peu le côté d'opposition par rapport à tout point de vue scientifique. Mais ils veulent le faire au point de vue scientifique, avec des arguments scientifiques, pour montrer que tout ce qu'on a dit jusque maintenant là-dessus, du moins ce que les savants disent habituellement, ça repose sur rien du tout. Il y a de graves erreurs qu'on ne regarde pas et qu'on fait semblant de ne pas voir. Ça, c'est extrinsèque, mais c'est intéressant de voir que Dieu, comme architecte, aime d'unir des extrêmes, la matière et l'esprit. Alors ça, c'est un argument de beauté, c'est un argument de splendeur. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Je crois que Dieu est Père, et donc c'est pour l'homme qu'il unit la matière à l'esprit. La matière, elle est pour l'âme. C'est pas l'âme qui est pour la matière. Tandis que l'argument de beauté, ce serait l'âme pour la matière, vous comprenez. Quand vous animez de la matière, c'est pour la matière, vous l'ennoblissez. Vous faites de la matière une belle statue, vous ennoblissez cette matière. Ah oui, ça c'est pour la matière qui est ennoblie. L'artiste peut ennoblir la matière. Tandis que Dieu en tant que Père, il y a les deux aspects, ça se complète. Dieu en tant que Père unit l'esprit à la matière pour l'esprit. Et c'est ça qui est plus difficile à voir. Parce que à première vue, on dit, mais non, ça alourdit. La matière, c'est alourdissant. À la fin d'une journée, on est fatigué. À cause de la matière que nous portons. À cause de notre corps qui a besoin de dormir. Frère, l'âme, hein, on n'a pas envie du tout de l'écouter trop. Et alors, c'est beau d'essayer de comprendre comment la matière, notre corps, est pour l'esprit. Donc, je vous disais, premièrement, pour la fécondité. Ça, c'est très important. Je crois que ça, il y a là un très grand secret. Deuxièmement, pour la connaissance artistique. Pour l'autonomie de l'artiste par rapport à la matière. Pour être un peu semblable à Dieu, puisque la création est avant nous, nous remontons de l'artiste vers le créateur. Mais le créateur, il descend du créateur vers l'artiste. Alors, il unit l'esprit à la matière pour faire des petits créateurs, pour faire des artistes, pour qu'il y ait des esprits qui essaient de transformer la matière. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas achevé notre univers. Il ne faut pas l'oublier. Dieu n'a pas fait un univers le plus parfait qui soit. Ça, c'est la théorie de Leibniz. Parce qu'il n'a pas compris ça. pour Leibniz, vous comprenez ? L'esprit lié à la matière, c'est pour que les mathématiques existent. Oh, ce serait peut-être aussi des raisons. On va le voir, ça. Pour Leibniz, c'est très net. Le monde est le plus parfait qui soit. Parce que Dieu est un géomètre de premier ordre. Alors il a fait un théorème parfait. Et c'est le monde. Alors le monde, c'est l'univers le plus parfait qui soit. Alors il n'y a plus de place pour l'artiste. L'artiste ne peut pas achever, continuer ce que Dieu a fait. Il peut imiter. Or, dans l'artiste, il veut réaliser quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a une dignité, qui n'est pas dans la création. Et donc, il y a là quelque chose de très important. C'est que l'intelligence artistique possède une autonomie, la subjectivité transcendantale de Kant, qui est vraie pour l'inspiration artistique. L'artiste, comme artiste, il possède une certaine autonomie. Il est capable de réaliser quelque chose de neuf, de nouveau. Il y a la connaissance affective, en troisième lieu, l'amitié. Alors, c'est là où c'est très délicat, ce serait très intéressant, philosophiquement, à regarder attentivement la place du corps dans l'amour d'amitié. Mais je crois que ce serait très important pour nous aujourd'hui, face à tout point de vue psychologique. Parce que le psychologue, lui, demeure très facilement dans le sensible. Les passions et l'imaginaire, ils ne touchent pas, en tant que psychologue, ils ne touchent pas l'amour spirituel. L'amour spirituel est au-delà du point de vue psychologique. Il ne faut jamais l'oublier. Un psychologue comme tel ne sait pas ce que c'est que l'amour spirituel. Il connaît le conditionnement de l'amour, il connaît l'exercice de l'amour. Il connaît les passions. Normalement, il connaît les passions. Il connaît l'imaginaire. Il connaît les refoulements. Il connaît tout ce qui n'est pas digéré. Vous voyez ? Tout ce qui est un peu rejeté, ça l'intéresse beaucoup. Mais le dépassement du côté affectif, spirituel, il l'ignore. Il ne sait pas ce que c'est. Les meilleurs psychologues soupçonnent qu'il y a quelque chose de spirituel. Alors à ce moment-là, ils découvrent quelque chose. Mais ce n'est pas leur domaine. Il ne faut pas leur demander ce qui n'est pas leur domaine. Ce qu'il faut leur demander, c'est d'être très, très bon quand il s'agit d'essayer de comprendre tous les complexes, tous les refoulements, tout le conditionnement d'amour humain. Alors, c'est très important de comprendre que le corps, avec le point de vue sensible, avec le point de vue passionnel, c'est le milieu qu'il faut traverser. Ce milieu qu'il faut traverser pour atteindre l'amour spirituel. L'amour spirituel existe dès le début. Le petit gosse qui crie pour avoir le lait maternel, le petit gosse qui crie pour avoir le biberon, c'est pas uniquement l'animal. Évidemment, c'est ça qui domine, c'est le besoin d'avoir du lait, le besoin d'avoir sa nourriture. Mais ce n'est pas uniquement cela. La preuve que si on commence à s'amuser avec lui, ça va. Et puis, si on s'amuse un peu plus, il va se mettre à sourire. Et le sourire est le signe qu'il y a un amour spirituel. Vous savez bien, le sourire n'existe pas chez l'animal. C'est l'amour affectif. Le sourire, c'est la présence d'un amour spirituel, présent dans le sensible. Le sourire est très humain. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le corps, pour qu'il y ait le sourire, après tout. Dieu a peut-être fait ça exprès. Pour que le sourire existe, il fallait le corps. Et le sourire, c'est vraiment l'esprit dans le sensible. C'est pour le regard, un regard profond. C'est pour cela le corps, vous voyez, du côté affectif, tout ce côté sensible. tout cet aspect affectif lié au sensible. Bon, il faut passer à travers tout cela pour découvrir l'amour spirituel. L'amour spirituel est capable de découvrir sa propre, son propre caractère spécifique, sa propre spécificité. Et en découvrant ça, il découvre son autonomie. L'amour spirituel est au-delà de la passion. Il est peut-être né à partir d'une passion, mais dès qu'il découvre ce qu'il est, il est indépendant. Saint Thomas dirait, en prenant l'analogie des Samaritains, qui sont, quand ils ont découvert Jésus, disent à la Samaritaine, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons en lui, nous l'avons découvert. Et je crois que c'est exactement le langage de l'amour spirituel par rapport à l'aspect passionnel. Ce n'est plus à cause de toi que nous aimons, nous avons découvert notre propre bien dans la vie. Vous ne dites jamais à un ami que vous avez vraiment choisi comme ami au plan spirituel, je t'aime parce que tu as de beaux yeux. Alors que la passion a peut-être été éveillée par ça. Je t'aime parce que tu as un regard extraordinaire. Je t'aime parce que tu es grand. Je t'aime parce que tu es petit. Ça dépend des goûts et des couleurs. Je t'aime parce que tu es gros. Ça dépend. Alors, on ne dit pas ça, parce qu'on sait très bien que si on dit ça, on rabaisse l'amour humain, l'amour spirituel. Je t'aime pour toi-même. C'est toi que j'aime. Vous voyez, c'est la revendication d'amour spirituel pour être un amour spirituel. Et ça, c'est capital. Tant que l'amour spirituel ne s'est pas découvert comme un amour spirituel qui est porté sur la personne, sur l'ami, il est dépendant de la passion. Et donc, il ne s'est pas découvert lui-même. Il reste dépendant de l'exercice. Il reste dans le conditionnement. Tandis que quand il se découvre lui-même, alors à ce moment-là, il prend sa dignité d'amour spirituel. Et l'amour spirituel a cette dignité qu'il réclame la réciprocité. Et j'allais presque dire, c'est le droit de la mise. Alors que la passion, pas du tout. La passion, ça lui est bien égale, la réciprocité. Parce qu'on accapare. Quand on accapare quelqu'un, on a besoin de la réciprocité. Je te possède, c'est tout. C'est suffisant. Tandis qu'au contraire, quand on respecte, on a besoin de la réciprocité. On a besoin de la réciprocité pour la stabilisation. Pour que la chose prenne corps. C'est très important, ça, de comprendre que l'amour spirituel réclame ça profondément. Pour que on ait pleinement conscience de la force de l'amour spirituel. Cet amour spirituel, une fois qu'il s'est découvert, il est libre de la passion. Il est libre du sensible. C'est très vrai. Et cependant, il réclame d'assumer le corps. Parce que c'est un amour spirituel humain. Et j'insiste parce que c'est un amour spirituel humain. Il est un amour spirituel. Et donc il a toute la force de l'amour spirituel. Et toute la liberté de l'amour spirituel. Mais c'est un amour spirituel humain. Et en tant qu'il est un amour spirituel humain, il doit assumer le corps. Il a besoin de ce rayonnement. Il a besoin de je dirais, cette amplification, cette amplitude. C'est le rayonnement, c'est sa splendeur. Il a besoin de se dire. Il a besoin de se montrer, de se manifester. Et il a besoin du corps, de la présence, du geste, comme de la parole. Il doit, à ce moment-là, assumer dans le respect. Et ceci, ça fait partie de cet amour spirituel. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour lui-même, avec infiniment de respect. Et donc, on ne veut rien faire qui puisse gêner l'autre. On ne puisse rien faire qui puisse abîmer l'autre. Mais c'est là où l'aspect moral va intervenir. Vous voyez, c'est là où il faudrait, je crois, essayer d'avoir, au plan philosophique, à partir de l'amitié, reprendre pour beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui ne peuvent plus comprendre la morale. Ils en ont soupé de l'impératif catégorique de Kant. Alors ça reste dans les universités, comme certaines choses demeuraient dans les églises. Mais c'est comme ça, faut voir les choses comme elles sont. On dit, oh, c'est le curé qui dit ça, il faut bien qu'il dise. C'est Rome qui dit ça, il faut bien qu'on dise ça. Rome rappelle la morale, mais ça n'a rien à voir avec ce qui suit. Oui, c'est... Et on voit très bien que Kant demeure dans les universités. Il y a des professeurs kantiens, professeurs de morale à Fribourg et kantiens. Et il l'a déclaré quand il est venu, comme un catholique pourrait faire une déclaration. Il n'a pas dit je cherche la vérité, non, je suis kantien, parce que c'est Kant qui est la droite de l'Allemagne. C'est être kantien, c'est être à droite, aujourd'hui. C'est varié. Hein. Parce que Kant, c'est Descartes, c'est la droite, je veux bien. Ça fait partie de positions assez particulières. Je crois qu'il faudrait reprendre par le point de vue de l'amour d'amitié, par le point de vue justement de cette liberté de l'amour d'amitié. Et comment? Parce que c'est un amour d'amitié humain. Il doit assumer le corps, comprendre là les exigences de la chasteté dans la perspective même de l'amour d'amitié. Comprendre là ce que ça représente, à la fois cette liberté, cet aspect concret, le réalisme concret de l'amour. On aime une personne vivante, on aime une personne concrète, on n'aime pas une idée. Vous voyez, la morale, elle s'est bâtie sur une idée, dans la décadence. Scolastique, c'est, elle est restée dans des idées, des définitions. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Ah, c'est comme ça. Alors que si on reprend le point de vue de la personne humaine et on essaie de comprendre les exigences même de l'amour, d'amitié, qui fait qu'on respecte l'autre, et on le respecte tel qu'il est, dans les exigences même de l'amour, d'amitié, alors à ce moment-là, on comprend de l'intérieur le respect du corps de l'autre, de celui qu'on aime. Et non seulement on comprend ce respect, mais on veut être gardien de ce respect. L'ami est gardien de son ami. Et si son ami faiblit par la passion, ce qui peut toujours arriver, il sera là pour l'aider. Mais on est gardien mutuel du respect de l'autre. Ça me semble très important de comprendre par le point de vue de l'amour d'amitié, l'amour spirituel, ce respect de la sensibilité, ce respect du corps de l'autre, en même temps l'aspect prudentiel, puisque le respect implique la prudence, le respect et la prudence, et la prudence consiste à savoir que les passions existent toujours. On le voit bien dans l'écriture. La belle Suzanne, ses juges, ces vieillards qui sont passionnés, c'est un peu affolant. Ils ont été juges toute leur vie. Donc, ils ont avalé la loi sans la vivre. Et l'ont imposée aux autres. Alors, on voit très bien, c'est extrêmement significatif, ça. Comprendre que, au point de vue prudentiel, il y a la passion qui existe et qui risque toujours d'assombrir l'amour spirituel. L'amour spirituel est le seul à avoir un éclat de beauté. Parce que c'est la victoire du spirituel sur le sensible, sur la matière. Alors que la passion peut avoir des éclats extrêmement fort et des retombées très rapides. La passion n'est pas belle. Vous voyez, il y a des élans passionnels qui sont beaux. Sénèque dit qu'on peut regarder la rage d'un chien pour voir qu'il y a quelque chose de beau dans la colère du chien. C'est vrai, ça peut être beau. Un taureau en fureur, hein, ça peut être beau. Mais ça ne dure pas. Les passions ont un éclat de beauté, tandis que l'amour spirituel, il est beau parce qu'il est victorieux de la matière et des passions. Alors là, vous voyez, il y a quelque chose, je crois, aussi très important. À partir de cet amour spirituel, le respect et l'aspect prudentiel qui va maintenir de fait un climat de pureté. L'amour réclame la pureté, le véritable amour. Et l'amour est mesure de la pureté. C'est pas la pureté qui mesure l'amour. Ça, c'est vu de l'extérieur. L'amour est mesure de la pureté. L'amour est plus exigeant que la vertu. Ça va plus loin, parce que ça rectifie l'intérieur, tandis que la vertu rectifie l'extérieur. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Jusqu'où on peut aller, vous voyez? C'est question d'ordre extrinsèque, et qui ne sont pas l'exigence interne de l'amour. Au niveau respect et au niveau prudentiel. Vous voyez, c'est pour ça que j'allais dire, pour l'amour spirituel, d'assumer le corps, ce n'est jamais quelque chose qui est fait. C'est toujours quelque chose qui se fait. Parce que les passions sont volcaniques. Et parce qu'elles sont volcaniques, elles existent tout le temps. On ne peut pas les éteindre. C'est la vertu qui, de l'intérieur, pas de l'extérieur, les mesure et les ramène à l'amour spirituel. C'est pour ça qu'on doit tout le temps, exactement comme l'amour, c'est quelque chose qui se reprend tout le temps, qui se refait tout le temps. On ne peut pas dire « j'ai assez aimé ». C'est vrai, quand vous arriverez au terme de votre vie, vous direz « je n'ai pas assez aimé » et ce sera vrai, est-ce que bon? Parce que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous arriverons au terme de notre vie en disant « nous n'avons pas assez aimé ». Nous n'avons pas assez aimé d'une façon qui soit vraie, qui soit conforme à la sagesse de Dieu. Et parce que justement, l'amour est quelque chose qui se reprend tout le temps. L'amour d'amitié se reprend tout le temps. Il a tout le temps une espèce, c'est une flamme qui renaît tout le temps et qui assume tout le temps d'une façon diverse le sensible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de répétition dans l'amour. C'est une reprise constante. Alors vous voyez comment cet amour spirituel se sert du corps. J'allais dire, se rajeunir, manifester sa tendresse, sa force, et manifester sa jeunesse constante, sa victoire sur la matière. Puisque c'est sur ce lieu sensible que se manifestent à la fois les concupiscences charnelles. Et c'est à travers le corps sensible que se manifeste la victoire de l'esprit. Et c'est pour ça que ça met du temps. L'amour spirituel met du temps à grandir. Et l'amour spirituel met du temps à être victorieux des passions. Et être victorieux pleinement de la sensibilité. Ça s'éduque. Notre corps s'éduque et s'habitue à être l'instrument de l'amour. Être au service de l'amour et de ne pas à éteindre et de ne pas à dominer. Toujours ces deux défauts, ou éteindre ou dominer. Je n'insiste pas plus. Je voudrais amour artistique, du côté intelligence artistique et du côté intelligence affective et politique, il y a quelque chose de nouveau. Pouvons-nous aller plus loin pour comprendre que grâce au corps, notre intelligence va pouvoir acquérir une plus grande autonomie. Ce que nous avions vu au point de départ, comme vivant. C'est très curieux, ça. Alors là, ce serait peut-être intéressant de regarder les mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques angéliques. Les mathématiques existent grâce à l'imagination, donc grâce à la sensibilité, grâce au corps. Et les mathématiques sont un domaine tout à fait particulier du développement de l'intelligence, d'une intelligence liée au corps. Alors voyez, les mathématiques, source de toutes les sciences. C'est énorme, ça. Une fois que vous avez compris ça, que les mathématiques ne pouvaient exister qu'à cause du corps. Et les béatitudes et les mathématiques pour Aristote sont ordonnées à la beauté, à l'harmonie, à la proportion. Alors on rejoint le point de vue de la beauté, l'harmonie, la proportion. Je peux me demander si même au point de vue purement spéculatif, ah ben je suis en philosophie première, en métaphysique. Est-ce que la métaphysique existe grâce au corps? Autrement dit, les anges. Ce sont les anges. Alors je m'appelle au théologien. J'interroge le théologien. Est-ce que les anges ont une métaphysique? C'est extrêmement curieux comme question. Hein. Poser la question au Saint-Père. Est-ce que s'il faut les métaphysiques, faut-il demander aux anges métaphysique? Est-ce que notre ange gardien est en état d'admiration quand il nous voit faire de la métaphysique? Quand on fait un cours de métaphysique, tous les anges gardiens de chacun d'entre nous sont là à écouter. Ça, qu'est-ce que c'est? Chose extraordinaire, c'est ce que disait le Père de Haut de temps en temps à propos de l'oraison. On l'a pas dit hier au soir, c'est important. À propos de l'oraison, le Père de Haut disait cette chose très belle. Il dit, les anges, les saints de la terre font oraison. Ils viennent se réchauffer auprès d'eux. Comme auprès de calorifères. C'est pas parce qu'ils sont froids dans le ciel. Non. Non, mais ils découvrent dans le cœur des saints quelque chose que n'ont pas la proximité avec le cœur de Jésus et de Marie. Les audaces des tout-petits. Nous sommes des tout-petits, les Benjamins. Dans une famille, vous savez, quand il y a des choses graves, les aînés demandent au petit Benjamin, va demander un petit peu ça, maman. Moi, je n'ose pas le demander, je peux pas. C'est. Mais toi, tu peux tout demander. Tu sais, tu es le Benjamin, tu as des droits extraordinaires. Tu peux tout demander. Et on voit le petit qui va demander ça, naïvement. Et la mère se laisse prendre naïvement à la question. Et l'aîné est très content d'écouter. Alors, l'oraison, c'est un peu comme ça. Naïvement, on va demander l'escret. Et les anges écoutent. Vous n'avez jamais pensé à ça. Alors, ne faites pas trop attention aux anges pendant que vous faites l'oraison, parce qu'ils n'écouteraient plus. Faites attention uniquement au cœur de Jésus. Et les anges écoutent, au cœur de Marie, les anges écoutent, parce qu'on a un privilège. On a l'escalier de service, nous. Les anges ne l'ont pas. Et quand on va auprès du pape, on aime bien avoir l'escalier de service, parce que l'escalier, hein, qui relève de toutes les choses habituelles, noblesse aux dignitaires, tandis que l'escalier de service, c'est merveilleux. Bien, nous avons la clé de l'escalier de service. Et l'oraison nous permet d'entrer tout de suite par le cœur de Marie et dans le cœur du Christ. Et donc d'avoir une oraison qui est beaucoup plus intense au point de vue qualité. Notre grâce chrétienne a quelque chose d'unique. C'est à cause du corps. Alors ça, c'est au plan surnaturel, c'est sûr. C'est la charité voiture. Mais c'est pas négligé, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en connaturalité avec le corps du Christ et le corps de Marie. En connaturalité avec le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Ce qui permet à la charité d'avoir un épanouissement très particulier. Le Père Doux le disait avec beaucoup d'humour en disant les calorifères, les saints sont les calorifères des anges. Alors, au plan purement spéculatif, indépendamment des mathématiques, les mathématiques c'est sûr, au plan purement spéculatif, nous découvrons que l'intelligence a comme concept fondamental le concept de l'être. Et la métaphysique, la philosophie première, consiste à acquérir ce concept et à faire que ce concept se porte bien, c'est-à-dire qu'il ne cesse de grandir, de s'approfondir, de se préciser, de se dépouiller, de se décanter pour arriver à être quelque chose de très très profond. C'est vrai, c'est le concept d'être qui est au cœur de, au plan de notre intelligence. C'est le concept par excellence. Le premier concept qui se forme en nous, les scolastiques disent, c'est un concept vague. Concept extrêmement imprécis. Vous voyez quelque chose, il y a quelque chose. Et quand vous dites il y a quelque chose, surtout les jours de brouillard, il y a quelque chose. C'est le sang, le S. C'est neutre, vous voyez. C'est très significatif, c'est quelque chose. Il y a un concept comme ça extrêmement vague, le concept de l'individu, d'un individu. Mais ça, c'est le concept d'un tout. C'est très générique. C'est le concept fondamental au niveau générique. Et puis le concept le plus parfait, c'est le concept d'être. Alors, le concept, il est le fruit d'une abstraction. À partir de l'image, donc à partir du corps. Et pour essayer de comprendre le passage de l'image au concept, le passage de la représentation de l'image à la signification du concept, ce passage de la représentation à la signification. Vous représentez quelque chose, et puis la signification. Ce passage se fait par une activité caché en nous, qu'Aristote a appelé l'intellect agent. L'intellect agent, c'est ce qui sauvegarde notre autonomie intellectuelle. L'intellect agent, vous voyez, c'est la subjectivité transcendantale, mais complètement différente de celle de Kant. L'intellect agent, c'est pour permettre que l'intelligence soit immédiatement reliée à ce qui est en tant qu'il est. C'est pour que la première chose que l'intelligence saisisse, ce soit ce qui est l'être. Primo cadit in intellectus ens. Et l'intellect agent est pour ça, pour que la première chose qui dans l'intelligence, ce soit ce qui est. C'est pour ça l'intellect agent. Et c'est là où on découvre la noblesse de l'intelligence, la grandeur de l'intelligence, et donc l'autonomie de l'intelligence. le reste ne l'intéresse pas immédiatement. C'est ce qui est qui l'intéresse en premier lieu. Et c'est cela seul qui peut la déterminer profondément. Et qui la détermine profondément. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'intelligence conçoit le concept d'être. Voyez donc que par le corps et grâce à l'intellect agent qui permet ce passage de l'image au concept, nous découvrons la souveraineté de l'intelligence qui est faite pour ce qui est et qu'à l'égard de tout le reste, l'intelligence manifeste sa totale supériorité. Elle n'est réceptive en premier lieu que de ce qui est. Vous allez me dire, toute intelligence est faite pour ça. Ah, pas de la même façon. Et c'est là où il faut peut-être essayer de saisir. Le concept d'être est propre à l'homme et à l'intelligence humaine. Et ce concept d'être, qu'est-ce qu'il lui permet? Il lui permet de concevoir ce qui est comme être. Donc, de commencer sa philosophie première. Et d'avoir en lui, dans l'ordre de l'intentionnalité, la richesse de l'être. C'est très extraordinaire, ça. À la fois par le corps, l'intelligence humaine va mendier son bien. Et donc c'est la plus pauvre de toutes les intelligences. Ça, c'est vrai. À cause du corps. Elle va mendier son bien. Et en même temps, en mendiant son bien, elle va être la plus riche de toutes les intelligences, sauf celle de Dieu, évidemment. Mais parmi les intelligences créées. Parce qu'elle va posséder intentionnellement l'être, les transcendantaux. Elle va les posséder intentionnellement par le concept. Le concept manifeste, le concept d'être. Manifeste la richesse de l'intelligence qui possède cela. Vous voyez, elle a cette réceptivité pour posséder plus profondément le réel, se l'assimiler, s'assimiler l'être. Et en s'assimilant l'être, elle s'assimile tout. Parce que tout est être. Elle possède tout. Cet être, ce n'est pas Dieu. Dieu, elle ne peut pas. Du reste, aucune intelligence créée ne peut posséder Dieu, c'est sûr. L'intelligence ne peut que contempler Dieu. Mais l'intelligence peut posséder par le concept, par ce concept spéculatif, par ce concept métaphysique d'être. Elle peut posséder quelque chose très spécial dans l'ordre de l'intentionnalité. J'allais dire que dans l'ordre de l'intentionnalité, elle a une primauté. Elle est analogue à Dieu dans l'ordre de l'intentionnalité. Dieu, c'est dans l'ordre de l'être réel. Elle, c'est dans l'ordre de l'intentionnalité. Et c'est peut-être cela qui fait comprendre pourquoi l'intelligence unie au corps va acquérir une plus grande autonomie. Parce que cet être intentionnel, c'est une forme intentionnelle qu'elle possède. Et quand Aristote dit que l'intelligence humaine est le lieu de toutes les formes intentionnelles, et le lieu de toutes les formes intentionnelles parce qu'il possède ce concept d'être. Et donc au niveau de l'intentionnalité, il y a une richesse que l'intelligence est capable d'utiliser, d'user comme il le veut, comme elle le veut. Et vous voyez, c'est cela qui explique pourquoi l'intelligence, si elle n'est pas très attentive, aimera mieux l'état de mendicité par rapport à la réalité. Alors il est toujours à l'écoute du réel. Et l'attitude de celui qui règne en possédant la forme attentionnelle. L'idéalisme. Alors on voit très bien ces deux aspects dans l'intelligence humaine. Ces deux aspects d'intelligence humaine qui est capable de construire, non pas au niveau mathématique, mais au niveau de l'intentionnalité intelligible, de construire son monde, le propre du sage et d'ordonner. Alors on peut ordonner en découvrant l'ordre du réel, on peut ordonner en ajoutant au-dessus du réel son ordre propre. Et ça, c'est très caractéristique de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine n'est pas immédiatement contemplative, tandis que l'intelligence angélique l'est. Et parce qu'elle n'est pas immédiatement contemplative, en raison de sa fragilité, en raison de sa faiblesse, elle a un pouvoir. Elle a une richesse. Et cette richesse de ces concepts, qu'elle peut construire, qu'elle peut utiliser de diverses manières, elle peut faire ses cathédrales d'intentionnalité. Ça, c'est sûr. Un système philosophique, quand vous voyez le système philosophique de Leibniz, quand vous voyez le système philosophique de Heidegger, quand vous voyez. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est pas du tout angélique. C'est proprement humain. Et ça, c'est la richesse de l'intelligence. Mais vous voyez, une richesse très dangereuse. Puisque à la place de contempler, on accapare et on construit. Et on comprend très bien cette attitude-là. Parce que l'intelligence humaine se forme à elle-même des concepts. Elle se forme à elle-même des formes intentionnelles. Alors elle peut dominer cela. Je crois que c'est là la clé de vous. C'est l'aspect du concept qui caractérise l'intelligence humaine et le concept d'être qui ouvre l'intelligence humaine vers la métaphysique, vers la contemplation, vers la contemplation de Dieu, vers la sagesse. Alors revenons à la théologie et regardons en dernier lieu le corps glorieux. Si le corps est l'œuvre du Père, et si le corps humain est le chef-d'œuvre de notre univers, et si le corps de la Vierge, dans sa maternité divine, est le sommet de tout l'univers, et si le corps du Christ est un sommet qui transcende, nous comprenons que le Père ne peut pas accepter que la corruptibilité du corps demeure. Ce serait une déchéance. Il ne peut l'accepter comme peine du péché. Il peut l'accepter en raison de sa justice. Mais pas en raison de sa miséricorde, pas en raison de son amour, c'est ça qui est très curieux. Les deux corps qui sont actuellement glorifiés, ressuscités, glorifiés, c'est le corps de Jésus, le corps de Marie. Tous les autres corps sont dans un état de corruptibilité, de poussière. Ce qu'on dit au début. Tu es poussière, tu tourneras en poussière. Aujourd'hui, on n'ose plus trop le dire, alors on met notre petite formule à côté. Mais on peut encore employer l'ancienne. Et l'ancienne est bonne. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Enfin, tout, c'est pas mauvais en face de l'orgueil du monde d'aujourd'hui. Rappelez que, oui, cette cathédrale de molécules, il suffit d'un petit rien pour poussière. Puis ça retourne en poussière. Et c'est quand même très curieux, ça. et non seulement permettre, mais comme peine du péché, conséquence du péché, la corruption du corps. Ce corps qui est si extraordinaire, si beau, si grand, si complexe, chef-d'œuvre de Dieu. Dieu Père permet cela. Voyez comme c'est. Plus vous avez la dignité du corps, plus vous comprenez la dignité du corps, plus vous comprenez que la corruptibilité du corps et que de fait le corps soit corrompu. Ça fait comprendre la gravité du péché. La gravité du péché. Que tu aies permis que le temple de Salomon soit détruit. Et au-delà du temple de Salomon, le corps de l'homme, c'est encore plus beau que le temple de Salomon, soit détruit. Connaisse la corruption qui retourne en poussière. Alors je crois que ça fait comprendre le démon. Ça fait comprendre la malice du péché. Ça fait comprendre l'orgueil. Ça fait comprendre le non-amour. C'est la marque du péché jusque dans le corps. C'est la mort. Et c'est la dégradation dans la corruptibilité. Un corps corrompu, un cadavre corrompu. On retourne à l'anonymat de l'univers. Puisqu'on retient poussière. Le chiffre biologique a disparu. Et c'est l'anonymat de la multiplicité et de la poussière de notre univers. Conséquence du péché, la marque du péché, c'est là qu'on la voit. Dieu permet cela pour reprendre tout d'une manière nouvelle. Dans la résurrection du corps. Alors comprenons bien que la résurrection du corps n'est pas une nouvelle création, c'est une recréation. C'est une reprise radicale à partir de la matière, à partir de la poussière, donc de la matière dégradée. Pas une matière montante, mais descendante. Descend le précipice, la poussière. C'est à partir de là que ça fait la résurrection des corps. Et cette résurrection des corps, elle se fait dans la lumière de l'âme glorieuse. C'est pour l'âme glorieuse. C'est pour la gloire de l'âme glorieuse. Ah, voilà la dernière dimension du corps. Vous voyez, mystère de joie, mystère de douleur, mystère de gloire. C'est curieux, hein? C'est pas étonnant. La Sainte Vierge, elle est mère. Et donc elle nous donne le sens du corps. Il faudrait réciter le rosaire comme des mystères qui nous donnent la théologie du corps. Mystère de joie, mystère de lutte et de mort, mystère de gloire. Il y a un corps glorieux, comme il y a une âme glorieuse, il y a un corps glorieux. Qu'est-ce que c'est qu'alors que le corps glorieux ? C'est un corps qui va être entièrement la manifestation de l'âme glorieuse, qui va être le lieu de la gloire de l'âme, de toute la splendeur de l'âme, qui va se manifester à travers la sensibilité, mais une sensibilité qui n'est pas la sensibilité que nous avons, à travers le corps qui n'est plus le corps que nous avons. Vous ne pouvez plus imaginer du tout ce que peut être un corps glorieux, absolument pas. Toutes les imaginations que vous avez ne sont pas ça. Parce que c'est en dehors de l'imagination. C'est quelque chose d'invraisemblable. Le feu d'artifice de la toute-puissance de Dieu. C'est éclatement merveilleux d'un corps qui est entièrement possédé par une âme glorieuse. Mais c'est le triomphe de l'âme spirituelle. C'est le triomphe de l'amour sur la matière. triomphe sur la matière, de l'âme spirituelle sur la matière, il faut que la matière soit là présente. Et elle est présente par la poussière. Et il faut que ce soit ce triomphe plaigné dans la matière. Triomphe de l'âme par le point de vue de l'intelligence, par le point de vue de la volonté, par le point de vue de l'amour, lumière et amour. Et c'est le triomphe de l'âme spirituelle et de la grâce. Et le corps ne devient plus que l'ostensoir de l'amour, la manifestation de l'amour. Ne devient plus que ce qui permet à l'amour d'éclater, d'être lumineux, et qui permet à l'amour de se communiquer d'une manière souveraine, substantiellement. Je crois qu'il y a cela dans le corps glorieux. Le corps glorieux ne connaît plus les limites de notre corps physique, le conditionnement selon le lieu et le temps. Non, il participe à l'éternité. Et d'une certaine manière, il participe, faisons attention, à l'omniprésence. Il n'aura plus besoin de la bilocation. La bilocation, c'est un petit miracle charismatique qui annonce ce qu'est le corps glorieux. Puisqu'il n'y aura pas de distance, victorieux des distances. Vous voyez ? Donc il n'y aura plus de sport pour aller plus vite possible. Le corps glorieux sera l'amour présent dans le corps pour montrer la victoire de l'amour et pour manifester cette victoire de l'amour. Le corps glorieux sera entièrement au service de l'art et donc sera dans le silence et en même temps dans la charité fraternelle. Il exigera cette communication et ce don et cette présence, ce don. Communication profonde d'amour. Je crois que toutes les nostalgies que nous avons au point de vue de l'amour qui domine le corps,